à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct avec l'actualité des ciels et blancs, de bleu et blanc. Le Racing battu sèchement à Paris 3-0 comme on pouvait le craindre, troisième défaite consécutive en championnat pour les hommes de Patrick Vieira. Alors faut-il s'inquiéter? Cette équipe est-elle malgré tout en progrès comme certains le défendent? Où en est-on du projet Racing? Voilà le pain sur la planche de nos consultants de ce soir. On est ravis d'accueillir une nouvelle fois Mounir Marzouk. Salut Mounir.
Bonsoir tout le monde.
Tout va bien?
Très bien.
Très bien, c'est les vacances. C'est pour les enfants.
Pour les enfants, pas pour moi.
Et il est la voix de Top Music le matin, et le visage, et la voix de Cop Racing le soir parfois. Charlie Yel, salut Charlie.
Salut Mathieu, salut à
tous. En pleine forme?
Oui, 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 ça va, ça va, ça va.
Malgré tout.
Malgré tout. Non mais j'ai enchaîné un bon week-end entre le Racing et la SIG hier.
La totale.
C'était parfait.
Allez, au sommaire de cette émission ce soir, le Racing donc corrigé sur la pelouse du Parc des Princes, 3-0. On reviendra sur ce match, y a-t-il du mieux comme le propose, comme l'instille Patrick Vieira. On en parlera, le chantier permanent de cette équipe qui ne semble pas beaucoup avancer. Et puis la suite, on parlera du match de Rennes, ça sera ce dimanche, deuxième déplacement consécutif pour les Strasbourgeois. Installez-vous confortablement, c'est parti. Paris vainqueur 3-0, donc qui s'est imposé comme on pouvait le craindre. Le Paris qui a marqué tôt comme on pouvait le redouter. Le Racing qui a eu du mal à exister dans ce match. Charlie, le plus triste dans cette partie, c'est qu'en fait tout s'est déroulé comme on l'attendait ou comme on le craignait.
Ouais, pour être honnête, j'avais pas forcément prévu de regarder ce match samedi parce que je savais justement ce qui allait se passer. Je me doutais que le Racing allait juste faire figuration au Parc des Princes. Et quand tu m'as dit que lundi soir, tu m'invitais avec plaisir dans Cop Racing, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais regarder le match. Merci pour le cadeau, Mathieu. C'était vraiment
avec plaisir.
Un super samedi après-midi. Mais effectivement, tout s'est passé comme prévu, malheureusement, pour le Racing avec cette défaite. Qui, à mon sens, c'est quand même 3-0, ça va. On aurait pu craindre pire avec
presque pire avant.
Ouais.
Mounir, il y avait mieux à faire dans ce match. C'est parfois ce qu'on se dit après des défaites où, en fait, il n'y a pas de surprise. Ce Racing n'est pas capable de rivaliser aujourd'hui.
Non, mais ce Racing n'est pas capable de rivaliser avec l'équipe presque bis de Paris. C'est un résultat tout à fait logique à mes yeux. Maintenant, faut tout de suite passer à autre chose et essayer de penser au prochain match de Rennes qui va être aussi très compliqué.
Paris, c'est toujours un match un petit peu à part. On sait qu'il confisque le ballon, 77% de possession samedi. Patrick Vieira qui a choisi plutôt de bétonner. Certaines équipes essaient de prendre de risques, elles le payent parfois un petit peu cher, même si des équipes ont pris des points sans forcément jouer beaucoup, mais ont pris des points contre cette équipe. Charlie, tu es un adepte du béton, ça t'allait bien ce pari défensif?
En fait, j'ai l'impression que chaque match au Parc des Princes, c'est la même chose, quel que soit l'entraîneur. On a eu ce même style de jeu avec Thierry Loret, avec Julien Stéphan. C'est toujours, on va au Parc pour essayer de contre-attaquer une équipe parisienne, ça ne marche jamais, évidemment. Sauf l'an dernier, on a failli par miracle accrocher un match nul avant à la dernière seconde, le but parisien juste après Noël, ouais, sur le pénalty. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on a jamais d'idée quand on va au Parc des Princes. Et pourtant, on sait que cette équipe parisienne est prenable cette saison. Alors certes, ça reste largement au-dessus du Racing. Mais pour moi, je reste toujours frustré de me dire, il y a vraiment rien de mieux à faire au Parc des Princes, quoi. C'est toujours la même chose. T'as toujours cette équipe strasbourgeoise qui vient en fait subir le jeu parisien sans jamais proposer de pressing. Et pourtant, on a vu des équipes capables d'aller faire des résultats au Parc, notamment Nice, hein, c'est vrai qu'il fait partie de ces équipes surprenantes.
Lorient avait cherché un nul aussi.
Lorient, non, mais il y a
Toulouse, Clermont, on accrochait des.
Enfin, je veux dire, on est sur le papier, je vois pas pourquoi le Racing serait moins capable d'aller chercher un point au Parc que Toulouse ou Clermont. Hein.
Mounir, tu l'as dit, en plus c'était une équipe un petit peu bis du PSG. Alors certes, ça reste du très très haut niveau, hein, sans Dembélé, sans Colomouani, sans Ougarté, sans Achraf Hakimi notamment. Et puis Paris a joué quoi? Petit bras aussi.
Pour résumer le match de Paris, je pense qu'ils ont fait un bon petit match d'entraînement avant la grande échéance de mercredi. C'est le sentiment, moi, qui a prédominé à la fin du match. Je trouve que le Racing, c'est pas manque d'idées, c'est qu'il n'a pas d'idées. Tout simplement, actuellement, franchement, j'aurais espéré peut-être un peu plus d'allant, un peu plus de folie, ce qu'a apporté Angelo quand il est rentré. Mais globalement, c'est un Racing très pâle face à un PSG qui n'a pas forcé son talent pour gagner.
Allez, petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1 quand même pour voir que le Racing, eh ben, tout doucement, qui était sixième, me semble-t-il, après la victoire à Metz il y a quelques journées, vient d'enchaîner donc trois défaites consécutives et qui continue de glisser doucement, tout doucement dans ce classement de la Ligue 1. Vous les voyez, les Strasbourgeois 13e avec les 10 points, certes récoltés depuis le début de saison, mais derrière, on le voit que ça avance avec notamment la victoire de Clermont hier soir à Lyon dans le match des mal classés. Y a-t-il du mieux malgré la défaite, Patrick Vieira, après ce match? Je n'ai pas aimé notre match contre Nantes, qui c'est vrai était très faible, le match amical contre Karlsruhe dont j'ai eu le malheur de regarder un petit quart d'heure. Il disait dans ce match quand même à Paris, j'ai vu un peu plus d'envie, un peu plus d'allant, de volonté. Charlie, ça a été ton sentiment aussi ou c'était trop léger quand même?
J'étais étonné sur le premier quart d'heure. J'ai vu une équipe strasbourgeoise plutôt, allez, je mets des guillemets, hein, plutôt bien dans son match. J'ai même vu un pressing de Thomas Delaine. À un moment, je me suis dit, c'est bien le Racing que je regarde cette saison, incroyable. Le Racing qui fait un pressing, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore en 10 matchs cette saison. Et puis c'est vrai qu'on sortait de sacré pur, genre comme tu l'as dit, entre Karlsruhe et Nantes, hein, où c'était vraiment le pire match des 5 dernières années, peut-être vu à la méno. Effarant. Alors oui, le premier quart d'heure était plutôt intéressant, on va dire, dans l'envie. J'ai senti une équipe strasbourgeoise concernée, ce qui n'était pas non plus beaucoup arrivé cette saison. Mais il y a cette erreur défensive de jeunes, hein, qui vient nous coûter le pénalty. Voilà, au lieu de dégager le ballon, on a Manga qui malheureusement vient crocheter le Parisien pour ce pénalty, ce qui nous a complètement, à mon sens, cassé les jambes et qui a mis dans les conditions les Parisiens pour la suite de la rencontre, qui effectivement ont joué finalement petit bras et on réussit sans forcer à battre un Racing bien pâle après un quart d'heure.
Il y avait néanmoins, Mounir, tu leur donnes crédit, plus de solidarité aussi dans cette équipe. Alors certes, on va à Paris, même à 3-0, certains joueurs soulignaient, on s'est pas désunis, on a quand même continué à faire les efforts, à rester ensemble.
Tu te déplaces à Paris, donc il y a une dimension psychologique qui est indéniable, ça c'est certain. Tout le monde a envie de se montrer, personne n'a envie d'être ridicule face à Paris. Il faut pas le nier. Moi j'étais pas surpris, mais j'étais... un peu emballé jusqu'au but refusé, parce qu'il y a eu quand même le but refusé pour les Strasbourgeois. Et après, c'est Paris qui a déroulé son foot, et puis Strasbourg n'a pas existé, pour être honnête. Hein.
Allez, on va enchaîner avec déjà la troisième partie de ce Cup Racing. Ce Racing est-il toujours trop fragile? C'est la conclusion vers laquelle on se dirige tous les deux quand on vous écoute. Quels enseignements tirer, Charlie, de ce match chez un PSG, comme dit, hors catégorie? C'est toujours trop tendre, toujours trop peu d'impact?
Ouais, c'est une équipe sans âme. Je trouve que c'est une équipe qui met pas d'impact, et on l'a bien vu. Il y a eu une action litigieuse avec une main parisienne a priori dans la surface, que seuls deux joueurs du Racing. On a vu que deux joueurs du Racing allaient mettre la pression à l'arbitre, alors que dans les 17 autres équipes de notre championnat, c'est que dès qu'il y a une situation litigieuse, t'as tous les joueurs qui viennent mettre la pression à l'arbitre. Alors ok, peut-être qu'après avec la VAR, on aurait dit non, finalement il y a pas main, d'accord. Mais pour moi, c'est un état d'esprit ça résume bien l'état d'esprit du Racing, c'est qu'il y a pas de guerriers dans cette équipe, il y a pas de joueurs expérimentés, t'as que des jeunes qui finalement sont en apprentissage. Je vois pas en fait à quel moment tu peux obtenir un résultat. Je suis toujours énervé, en fait, j'en démords pas de ce début de saison qui est pour moi catastrophique. Et c'est vrai que tu as une équipe qui manque d'état d'esprit et qui manque d'idées aussi. Et à mon sens, alors on a beaucoup tapé sur Patrick Vieira depuis le début de la saison. À mon sens, c'est pas le seul responsable de ce fiasco pour l'instant strasbourgeois.
On va en parler du cas du coach notamment, mais on va s'arrêter sur quelques chiffres. Les statistiques, on leur fait parfois, c'est vrai, dire ce qu'on veut. Regardez quand même, quand on les additionne un petit peu, ce que ça donne. Certains sont un petit peu lourds de sens quand même. On appelait ça le poids des chiffres. Le Racing, après ces 9 journées de championnat de Ligue 1, a tout simplement la 16e attaque. C'est la 17e équipe. On est sur 18 équipes. Hein. Il n'y a plus que 18 équipes en Ligue 1, pour rappel. 17e à la possession, 17e au nombre de passes réalisées, 18e au nombre de frappe, donc dernier également au nombre de frappes cadrées sur l'ensemble de ces du quart du championnat, puisqu'on y est désormais. Les statistiques, Mounir, je ne sais pas si tu en es un adepte d'habitude, là ça commence à vouloir dire quelque chose d'inquiétant.
En fait ces statistiques là tout simplement, elles reflètent le jeu proposé par le Racing. Donc moi, quand je vois jouer le Racing, je vois un 17e, je vois un 16e, mais je vois pas un 8e comme les chiffres pouvaient nous le montrer à un moment en début de saison. Là, on glisse tout doucement vers une place qui est conforme à ce qu'on produit, tout simplement.
Et quelle équipe est plus faible que le Racing actuellement?
On a essayé de les énumérer tout à l'heure. On en voit peut-être une.
Metz, c'est Metz, qui a gagné.
Metz.
Clermont peut-être.
Metz et Lyon.
Metz et Lyon,
Lyon,
hein. Lyon, on parle. Non, mais bon, Lyon, il y avait du jeu quand même en fin de match.
Mais même Clermont, quand on voit le match qu'ils ont réussi à produire hier à Lyon, c'est inquiétant parce qu'on va les jouer dans deux semaines et on se dit, mais à quel moment cette équipe du Racing est capable de battre cette équipe clermontoise qui a une âme, elle pour le coup, qui a un coach aussi.
Qui a remporté son premier match.
Hein, ouais, ah oui, c'était soir, justement la première victoire, mais on s'est dit, ok, alors là, cette équipe clermontoise, si elle commence justement avec cet état d'esprit à venir chercher des points chez des équipes mal classées comme Lyon, au Racing, à la Méno, ça va être pareil.
Et puis Clermont n'a pas démérité sur les matchs précédents, il ne faut pas l'oublier.
Ils avaient accroché Paris,
ils ont fait de 0-0. Très bons matchs. Il y a une unité avec le public aussi, parce qu'eux, ils sont programmés pour le maintien et ils se battent pour ça. Nous, peut-être qu'on a visé d'autres objectifs qui sont pour l'instant pas atteignables.
On en parlera tout à l'heure pour finir sur cette première partie, Charlie, en 30 secondes. Cette équipe trop jeune, tout simplement.
Oui, c'est le même constat qu'on fait semaine après semaine. Hein. C'est effectivement un mercato qui a été trop de paris sur ce mercato, trop de jeunes joueurs qui peinent à convaincre, des cadres manquants, hein, tout simplement aussi. Et je suis désolé, quand tu prends des paris sur l'avenir avec des jeunes joueurs, alors certes, Angelo, on sait que c'est un joueur qui est prometteur, il nous l'a déjà montré, que c'était une des meilleures recrues du mercato estival. Mais effectivement, il te manque un bon joueur expérimenté de Ligue 1 par poste, c'est bête à dire, hein, mais c'est vrai que dans toutes les équipes de Ligue 1, t'as des joueurs qui sont restés là et qui ont cette expérience pour aussi aller chercher les points nécessaires. Alors on a 10 points, c'est pas terminé, mais là, oui.
Et on n'avance plus depuis quelques matchs. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez en place, bien évidemment. On revient dans un instant, on va parler de ce chantier, de cette équipe en chantier. Patrick Vieira a-t-il du temps aussi, peut-être, un luxe peut-être pour un entraîneur. On parlera de Rennes, surtout le défi des Strasbourgeois, ce sera dimanche prochain. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Le Racing qui est donc sur 3 défaites consécutives, série en cours en championnat. Comment faire mieux? C'est un petit peu le refrain de Cop Racing depuis le début de saison. L'effectif, en tout cas, est-ce qu'il est fatalement jusqu'au mois de janvier qui est au mercato? Il faudra faire avec. On nous dit aussi que le projet, c'est un projet de long terme, qu'il faut de la patience, qu'on est en train de construire, que cette équipe doit grandir, qu'elle est jeune et qu'elle apprend. Mounir, on dit toujours qu'en sport de haut niveau et au foot en particulier, on n'a pas de temps, on est dans l'urgence. Est-ce que, en fait, si ses dirigeants lui lâchent la bride et lui font confiance, est-ce que Patrick Vieira a peut-être un luxe qu'aucun de ses co-entraîneurs dans Ligue 1 n'a, c'est simplement peut-être du temps pour laisser se développer ce projet.
Stéphane a quand même eu du temps, je trouve, mais Stéphane a surfé sur une saison exceptionnelle. C'est pour ça que je pense qu'il a pu continuer à coacher.
Je veux dire, est-ce que c'est le deal de départ? Est-ce que c'est lui dire, peut-être. On n'a pas d'exigence de résultat tout de suite, fais-les jouer, développe ton équipe, fais-les grandir. Est-ce que ça pourrait être ça?
C'est possible. Vu l'âge des joueurs qui ont signé au Racing, c'est une possibilité, mais je sais que le temps, il n'en aura pas indéfiniment et qu'à un moment ou à un autre, les actionnaires réclameront des comptes et il faudra qu'il en donne.
Charlie, c'est une théorie qui te parle ou pas du tout? C'est que ce qui la met en balance, c'est qu'une partie de ses recrues ne joue pas pour l'instant.
Je suis pas certain que Vieira ait autant de temps qu'on le pense. C'est pour moi en coulisses. Faut pas penser que parce que c'est Patrick Vieira, palmarès incroyable, qu'il aura un temps prolongé jusqu'au printemps prochain où l'équipe sera relégable et on se dira c'est pas grave, on aura essayé, du coup on va essayer de se rabattre sur quelqu'un d'autre. À mon avis, Patrick Vieira a quand même la pression et le temps. Je peux vous assurer que si on fait pas de résultat à Rennes dimanche et qu'on bat pas Clermont en plus à la Méno dans deux semaines,
ouais, je pense.
Ça va commencer à chauffer sérieusement et je serais pas étonné que malgré le coût qui sera assez faramineux pour licencier Patrick Vieira, le coach ne termine pas l'année 2009, ne voit pas, même pas le marché de Noël de Strasbourg.
On parlera du chantier de l'attaque dans un instant. Petit focus sur la défense d'abord. On a recruté beaucoup de défenseurs, Mounir. Au final, personne ne joue l'équipe depuis 5 matchs. C'est la défense de l'an dernier, plus Marvin Senaya de retour de prêt de Rodez. Ça illustre ces difficultés.
Ça illustre la difficulté des nouvelles recrues à peut-être s'intégrer. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure en coulisses, on a mis un Silla au placard. C'est un Silla. Alors, C'est un joueur perfectible qui, rappelons-le, jouait quand il y avait une défense à 3. Aujourd'hui, on se retrouve sur une défense à 4. Il pourrait peut-être avoir plus de repères. C'est ce qu'il jouait d'ailleurs quand il était à Bruges. Il faudrait peut-être penser à le réintégrer, surtout quand on voit le coût du transfert qui est faramineux
et qu'on voit que c'est d'euros, le plus gros de l'histoire du, voilà. du Racing.
Et qu'on voit que c'est Perrin qui tient la baraque aujourd'hui au sein de cette défense.
Mais je ne comprends pas pourquoi justement Silla est autant au placard que ça. Enfin, alors ok, il nous a coûté. Enfin, il a eu quelques matchs ratés en début de saison, mais quand on voit le match absolument abominable de Niamsi au Parc samedi, Niamsi, ça fait 2-3 matchs qu'il enchaîne avec des contre-performances. Alors, un Silla qu'on a mis au placard après 3 matchs, pourquoi Niamsi ne subirait pas le même sort? Niamsi, il était bon dans cette défense à 3, dans cette défense à 4. On le sent perdu, le pauvre. Alors moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais malheureusement, il faut aussi se rendre compte que il traverse une mauvaise passe et un Silla ne ferait pas de mal, comme un Doucouré qui, à mon sens, pourrait aussi rebasculer en défense. Et il serait peut-être même meilleur à ce poste, parce qu'au milieu, alors ok, on n'a pas le meilleur milieu de Ligue 1, mais il y a des solutions, et il y a des solutions encore au placard. Il y a tellement de joueurs au placard que...
On va parler justement de l'animation offensive, qui est peut-être sûrement le plus gros chantier du Racing, une des plus mauvaises attaques de Ligue 1. Le Racing qui n'a pas marqué au Parc, qui a marqué un seul but en déplacement cette saison, c'était lors de la victoire à Metz. Qui est le meilleur buteur du Racing, messieurs, cette saison?
Emega, je pense.
Emega, 2, avec...
Avec Motiba.
Motiba. Motiba avec Jean-Ricner Bellegarde.
Oui, parce qu'il y a méga un but.
Oui. Et qui est le meilleur passeur du Racing? Jean-Ricner Bellegarde, avec 2 passes, qui est parti il y a 2 mois. Voilà. On a tout dit, Mounir, quand on a dit ça.
Je pense qu'on a résumé la faiblesse offensive du Racing actuellement. De toute façon, faut pas se leurrer quand tu perds un joueur, un cadre par ligne, et que tu les remplaces pas, ben automatiquement ton équipe s'affaiblit et ça se voit. Tout simplement.
On cherche encore la formule, on voit ce milieu qui change tout le temps, les titularisations. Je crois que c'était 20, il y a 20 joueurs différents titularisés par Patrick Vieira depuis le début de cette saison. C'est le milieu de terrain, l'animation offensive, Charlie, on ne s'y retrouve pas depuis le début, on n'a toujours pas trouvé la formule.
Il n'y a pas de lecture claire de toute façon du jeu mis en place, que veut mettre en place Patrick Vieira. Et on parlait de l'identité justement. C'est vrai qu'on a connu des entraîneurs comme Thierry Loret. Alors on aime, on n'aime pas, mais au moins il avait son identité de jeu. On savait où on allait. Les joueurs savaient ce qu'il fallait faire. Julien Stéphan, c'était pareil. Alors sur la deuxième saison, ça n'a pas forcément pris. Antonetti a réussi aussi son coup avec sa philosophie de jeu. Patrick Vieira, le problème, c'est qu'effectivement, tu changes de système 3 fois depuis le début de la saison. Tu as des joueurs qui sont perdus, tu as des joueurs que tu fais jouer, après que tu ne fais plus jouer. En fait, la lecture, c'est totalement brouillé. Moi, je ne sais pas où va le Racing et où veut en venir Patrick Vieira, mais c'est pas le seul responsable.
Il y aura des choix à faire, évidemment, parce qu'il y a un match qui se profile déjà. On va parler de Rennes, le prochain déplacement des Strasbourgeois, deuxième déplacement consécutif. Ça ne s'annonce pas beaucoup plus simple que le Parc des Princes. Quoique, regardez tout de même avant ça le calendrier des Strasbourgeois sur les 4 prochains matchs pour se projeter un petit peu. On a commencé à en parler, donc déplacement à Rennes, bien sûr, ce dimanche. Ça sera à 17h. Il y aura la réception de Clermont. Ça vaudra 6 points, très certainement. Déplacement à Brest, qui est 5e actuellement. Et puis, on terminera. Alors, il y aura un petit break et puis déplacement, réception de Marseille. Ça sera le 26 novembre. Bon, de toute façon, quand on n'est pas sur une bonne série, tout Mounir paraît un petit peu compliqué. Tu as regardé un petit peu Rennes, tu me disais, ce week-end.
Oui, j'ai regardé Rennes.
Ça t'a pas rassuré?
Non, ça m'a vraiment pas rassuré, surtout quand j'ai vu la première mi-temps de
Rennes.
Ils
ont perdu à Lorient.
Oui, ils ont perdu. Ils sont aussi dans une mauvaise passe parce qu'ils sont aussi sur 3 défaites consécutives.
Dont une en
Coupe d'Europe. Le côté, je dirais, positif pour le Racing, c'est que Rennes va au Pana cette semaine. Donc déplacement, il y a peut-être le côté fatigue qui va s'accumuler pour la fin de la semaine. Mais quand je vois le rythme sur lequel a joué le PSG ce week-end, Rennes pourra reproduire ce type de performance sans aucun problème face au Racing.
Ouais, Rennes, vous l'avez vu dans l'infographie, c'est une seule victoire sur les 8 derniers matchs de Ligue 1. Alors certes, il y a eu de victoire en Coupe d'Europe dans l'intervalle. Tu tentes un coup, Charlie, sur ce match? Tu remets du béton comme au Parc, ou on rechange encore quelque chose? La palette est ouverte.
Oh bah, de toute façon, c'est totalement illisible. Hein. Je suis pas entraîneur du Racing, heureusement pour eux. Mais non, je vois pas ce qu'on peut faire à Rennes. Je suis assez dépité. Hein, j'ai un discours assez dépité, mais c'est vrai, je ne vois pas quel bon résultat on peut obtenir à Rennes, sauf miracle évidemment. Mais je pense pas. Enfin, pour moi, l'équipe lorientaise qui a battu justement Rennes ce week-end est bien meilleur que le Racing. Et un coach qui a des idées de jeu, avec des joueurs qui savent ce qu'il doit faire. Et c'est tout l'inverse du Racing. Donc à Rennes, je ne sais pas. Je pense que de toute façon, on va chercher à bétonner, évidemment. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres idées de jeu. Et à Rennes, j'ai envie de dire, tu n'as presque pas le choix. C'est une équipe qui est très dangereuse à tous les postes. Et effectivement, la mauvaise série en cours pour les Rennais résume pas forcément cette équipe.
Sur défaite à Lorient, c'est 70% de possession et 20 frappes au but.
Hein. Ils font une super première mi-temps, hein, les Rennais.
Il y a perdre et perdre.
C'est quand même consistant dans le jeu. En fait, on voit quand même des idées claires. Genesio est un joueur, est un entraîneur qui prône le jeu. Ça se voit. Il y a de la transition, il y a de la qualité technique, hein, que ce soit collective mais aussi individuelle. Il y a des joueurs capables de faire des différences. On l'a vu à Paris, hein. À Paris, les joueurs qui savent faire des différences, ils arrivaient à faire des différences très facilement face aux Strasbourgeois. On sentait tout le temps les Strasbourgeois à la limite, en fait, de la rupture systématiquement.
Tu tentes un coup sur ce match, tu parlais d'un Silla en défense,
Moi, je remodellerais déjà mon milieu de terrain en mettant un milieu de terrain un peu plus créatif, en jouant. Alors, c'est mon système à moi, hein. Moi, je jouerais en 4-2-3-1 avec deux vrais récupérateurs, avec un Persic qu'on a revu dans le groupe. D'ailleurs,
c'est vrai.
Qui réintégrerait plutôt au milieu de terrain pour alimenter l'attaquant. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Je réintégrerai éventuellement un Silla derrière, parce qu'il a quand même une dimension athlétique qui n'est pas négligeable. Il est rapide, il est puissant. Alors il a ses petites erreurs de jeunesse, mais il faut les relancer.
C'est un pari sur un match comme ça où on est très
Il faut les relancer.
Quoi.
Il faut les relancer. Une recrue à 20 millions, on ne peut pas la mettre au placard parce qu'il n'a pas fonctionné dans un système à 3 centraux. Donc, et puis, est-ce qu'il a le choix?
Eh ben, peut-être pas. Réponse dimanche, enfin, samedi déjà avec le groupe, et puis dimanche pour la suite. Allez, petite pause omnisport. Vous le savez, on ne parle pas que de football dans Cop Racing. Petit retour sur l'actu basket, notamment de ce week-end. Regardez, installez-vous bien, c'est parti.
Fin de série pour la SIG. Après deux victoires consécutives en Betclic Elite, l'équipe strasbourgeoise a été logiquement battue par le leader du championnat Monaco. Les Alsaciens ont résisté pendant 20 minutes. Ils menaient même d'un point à la mi-temps dans le sillage de Philbus et ses 18 unités. Le troisième carton a été fatal pour la SIG qui encaisse 27 points, trop pour espérer rivaliser avec la Roca Team. Strasbourg s'incline 67-83 et affrontera l'ASVEL le week-end prochain. En handball, 7e journée de Pro League et 5e victoire pour Célestat. À domicile contre Angers, les Violets ont mené toute la rencontre et s'imposent 31-28. Le club alsacien est 3e au classement. Et puis un mot de volley avec Mulhouse qui poursuit son début de saison parfait. Samedi soir, les joueuses du VMA ont sèchement battu Quimper 3-7-0. Avec cette 3e victoire en 3 matchs, Mulhouse est leader de Ligue A féminine.
Pourvu que ça dure pour les Mulhousiennes, parmi l'élite évidemment du volley français. Il nous reste une grosse minute trente pour conclure. Mounir, ton optimisme habituel est un petit peu émoussé par ces
oui,
matchs
non,
tristes à répétition.
Non, mais c'est plutôt la frustration de voir notre Racing un peu dans cette situation-là, sans fond de jeu et puis sans identité. Quand on voit l'identité du public, on se dit on aimerait que
il y a un décalage quoi.
Voilà, il y a un gros décalage avec ce qui est l'équipe, ce que l'équipe produit aujourd'hui sur le terrain. Donc c'est plutôt de la frustration, pas forcément et un peu de déception, mais voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un sursaut d'orgueil le week-end prochain. Ça nous ferait vraiment du bien au classement et dans les têtes.
On croise les doigts. Charlie, tu étais le plus fâché avant l'émission des deux, mais tu es un optimiste invétéré. Fais-nous, tu as 20 secondes pour nous faire rêver. Qu'est-ce qui va bien se passer?
Pas grand-chose.
Merci Charlie.
Non, j'ai du mal à être optimiste avec ce Racing-là. Franchement, je suis un peu désabusé sur cette saison et je suis le premier frustré parce que je suis un fan du Racing, amoureux de mon club aussi. Mais c'est vrai que là c'est, je ressens cette forme de lassitude et de me dire mais quelle est la fin, quoi? Quelle est la suite, quoi? Donc je
Et eh ben, désolé, élément de réponse dimanche 17h. Merci beaucoup, hein, c'était
de rien.
Dimanche 17h, le match du Racing au stade de la Route de Lorient pour défier le Stade Rennais. On se retrouvera bien sûr lundi pour en parler, lundi soir 19h. Votre rendez-vous avec l'actu du Racing Club de Strasbourg. Excellente soirée à toutes et à tous.